إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مواصل إن شاء الله مع دراستنا لكتاب ابن القيم، وذلك طلبا لاتباع آثار سلفنا الصالح، جعلني له وإياكم من أتباعهم. يذكر هنا ابن القيم ما رواه الترمذي، ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول ابن القيم: والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصل إلى رضا ربه عز وجل. ربي عز وجل جعل هذا الطريق، سلك طريقا يبتغي في علم، celui qui suit un chemin sur lequel il veut acquérir la science de la religion, Allah عز وجل lui facilite ou lui ouvre un chemin vers le paradis. Et cela يعني رجع إلى أن يعني في طلبه للعلم في ذلك في سلوكه يعني لهذا الطريق في طلب العلم فهو يسلك طريقا يعني يبتغي فيه الخير لنفسه ولغيره، يكون فيه على وفق ما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق هذه العبودية لابد لها من العلم قبل المسير. فالذي يسلك هذا الطريق هو الذي يكون على الجادة في قضية عبادة الله عز وجل، حق العبادة، وهي سبب يعني خلق هذا الكون. ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما. Donc les anges ils posent leurs ailes en humilité, par respect. Par humilité et respect, et pour honorifier celui qui prend la peine, c'est-à-dire d'essayer d'apprendre la science de la religion. Et ça montre l'importance de cet effort. Celui qui fait l'effort pour assister au cours, celui qui fait l'effort pour apprendre la science de la religion, il a cet honneur. C'est un honneur qui est important, que l'insane y soit. Que l'étudiant de sciences de la religion il soit entouré par ce qu'il y a de mieux en création, que ce soit à son niveau immatériel, et ce qu'il y a de mieux en création, soit dans le monde spirituel, c'est-à-dire le monde des anges. Parce qu'il n'y a pas meilleur entourage qu'on peut avoir dans ce monde que les gens de science, de sharia. Et on ne peut pas avoir meilleur soutien dans le monde qui est spirituel que celui des anges. Hein, celui qui suit Dunya, il est entouré par les shayatin. Hein. Et comme Allah Azza wa Jalla fait, il va vivre une vie, malgré qu'apparemment peut-être il est dans des jouissances qui sont matérielles, mais il ne va pas goûter au bonheur, au vrai bonheur de la vie. Celui qui va goûter à ça, c'est celui qui est dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'il est bien entouré, que ce soit, comme on a dit, dans le côté de ce qu'il voit, de ce qui est mensous, parce que le fait d'aller au cours de science, le fait d'essayer de se rapprocher des gens de science, c'est de se rapprocher de ceux qui nous sont les plus utiles. Il est influencé par l'entourage dans lequel il vit. S'il vit avec des gens qui vont parler tout le temps de football, et il va parler aussi de football. Les gens vont lui dire but ou je sais pas quoi, ou telle équipe et tout. Il va ramasser toutes ces informations parce que ça tourne autour. Ça tourne autour de lui et lui, il est obligé de suivre le courant dans lequel il est en train de vivre, la communauté dans laquelle il est en train de vivre. Et donc, il a une part qui est liée à sa volonté personnelle, mais il a aussi une part d'influence et il est très influençable par le milieu dans lequel il est en train de vivre. Et l'étudiant de science, vu qu'il fait cet effort dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qu'il assiste aux cours de science, qu'il suit les ulama, qu'il suit les gens de science, il se fait bien entouré dans le monde qui est le monde mahsous qu'on détecte par l'essence que l'Azza wa Jal nous a donné, et aussi il est bien entouré par les anges, et c'est ça qui fait élever la foi. L'insane, il se dit des fois, Shaitan il vient, il casse la volonté, notre volonté de faire des fois des bonnes choses, en essayant de lire un bon livre de science ou d'essayer d'écouter un dars, en nous disant que c'est bon, t'es déprimé, ça va te servir à rien, l'état dans lequel tu es, c'est pas un moment pour apprendre la science, et après qu'il ait vaincu cela et qu'il lit ce livre ou qu'il écoute le cours, il sort de cette écoute, du fait qu'il a bien exploité son temps avec un état dans son cœur qui n'était pas le même, qui était au début, et des fois, il s'étonne, comment se fait-il, que cette lecture ou que ce suivi de ce cours ou que le fait qu'il ait écouté ce savant ait changé sa vision et qu'il sent cette foi qui augmente dans son cœur, et il sent que avant peut-être qu'il sentait certaines faiblesses vis-à-vis de cette shahawat, de cette dunya. En sortant des cours, ils se sentent forts. Ils se demandent même pas, ils se demandent comment se fait-il qu'avant, il était aussi faible. Et donc il y a des éléments qui nous renforcent, dans le domaine de la foi, et c'est des choses qu'on ne voit pas, matériellement. C'est quoi le fait d'assister à un cours pour nous, matériellement, on se dit, bon, ça va pas changer grand-chose à notre vie. Pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, مَجْتَمَعَكُمُ فِي بَيْتِي مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc le fait qu'on y assiste, ça fait un apport du côté qui est spirituel, du côté qu'on ne voit pas, qui fait augmenter cette foi et qui fait la force des cœurs, et c'est dans cela qui est notre salut, surtout dans le bi'a dans lequel on est en train de vivre, parce que l'accès aux shahawat, il est facile. On est dans une bi'at al-kufr, et à l'approche des mois qui sont chauds en température et en autre chose, l'insane a besoin d'avoir, surtout dans ces temps-là, une foi qui est assez forte et qui l'élève au-dessus des attraits matériels, des shahawat qui ne sont pas à négliger. C'est vrai que les shubhat sont dangereux, et les shahawat ont aussi leur danger vis-à-vis de bien dans laquelle on vit, et ça peut nous entraîner vers le mal, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc les anges, ils mettent, c'est-à-dire ils baissent leurs ailes, comme on a dit, par humilité, par respect, pour honorifier celui qui ikraman lima yahmiluhu min miratin nubuwa, celui qui porte l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé derrière lui les biens de ce bas monde, mais il a laissé cette science, cette révélation. Donc celui qui va la chercher, il est en train de prendre de cet héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela que les anges, ils abaissent leurs ailes, et comme on a dit, comme il va citer Ibn Qayyim après, il dit ça, pour faire du'a, tabsutuha bi du'a li talibil ilm badala min al-aidi, pour demander à Allah azza wa jal la miséricorde, le fait de de donner tout bien à cet étudiant de science. لأنه طلب لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته. Parce qu'il est en train de chercher par cela le fait qu'on apprend la science de la religion, c'est quelque chose, ça c'est un moyen qui permet le salut de cette personne, et ça va aussi dans le sens du salut de notre monde. Hein? Plus on est proche de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, plus on est proche, il y en a d'un état d'équilibre dans le fait de bien profiter de cette vie d'ici-bas. Hein? Le problème, il y en a de s'éloigner du chemin d'Allah Azza wa Jal, c'est d'aller dans le sens du mal, que ce soit, il y en a dans son cadre, dans son sens qui est son sens, il y en a matériel ou spirituel. Le fait que les gens font plus de péchés à cause de leur éloignement de la religion fait que ils vivent dans un monde où il y a beaucoup de malheurs, où il y a beaucoup d'éloignement, où il y a beaucoup de mauvaises choses, tout ce qui se passe dans ce monde, hein, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa ma tusibukum musiba illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Toute musiba qui vous arrive, tout mal qui vous arrive, c'est du résultat de ce que vous faites. Et le masaïb qu'on voit aujourd'hui, ces cyclones, ces problèmes, tous ces problèmes qui sont matériels, ils sont dus à l'éloignement dans le cadre qui est spirituel de cette humanité. Plus elle s'éloigne, plus Allah Azza wa Jal, il la sanctionne par cet éloignement, par ces catastrophes qui arrivent. Et donc celui qui va prendre un chemin dans le sens d'apprendre la science, c'est-à-dire qu'il va dans le sens de bien faire et le sens de ramener le bien pour ce monde. Hein? Le Qayyim dit le talib al-ilm yatlubu lima bihi hayat al-alam wa najatuhu fa fihi shabahun min al-malaika. Donc il a une ressemblance avec les anges qui ne veulent que le bien. Wa baynahu wa baynahum tanasub, entre lui et les anges il y a une ressemblance. فَإِنَّ الْمَلَائِكَ أَنْصَحُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَنْفَعُهُمْ لِبَنِي آدَمَ, parce que les anges sont les créatures qui sont les plus à même de porter le bien à Bani Adam, aux hommes. وَعَلَى أَيْدِيهِمْ حَصَلَ لَهُمْ كُلُّ سَعَادَةٍ وَعِلْمٍ وَهُدًى وَمِنْ نَفْعِهِمْ لِبَنِي آدَمَ وَنُصْحِهِمْ أَنَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُسِيئِهِمْ. C'est-à-dire les anges, ils prient Allah Azza wa Jal pour qu'il pardonne à celui qui fait des péchés parmi les gens, yani de foi. وَيُثْنُونَ عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ وَيُعِينُونَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. Les anges, ils sont là pour nous protéger du mal qui peut nous venir des shayatines, soit des shayatines de ins, soit des shayatines des djinns. وَيَحْرِصُونَ عَلَى مَصَالِحِ الْعَبْدِ أَضْعَفَ حِرْصِهِ عَلَى مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. Et ils nous veulent plus de bien que ce qu'on veut pour nous-mêmes. Il cite là le verset où il montre le doua des anges après. Il cite un autre hadith dans Sunan al-Masanid. Le Sunan, c'est les livres qui sont dans le hadith selon l'abwab, l'abwab al-fiqhiyya, l'abwab al-wudu, l'abwab al-salat, l'abwab al-ilm. Al-Masanid, c'est les livres de hadith qui sont classés selon les. Selon le rapporteur du hadith des noms des compagnons. C'est-à-dire le. Barakallahu fik. Min hadith Safwan ibn Asal, قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم لا تحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. Donc, un des compagnons est venu au professeur صلى الله عليه وسلم en lui disant qu'il était venu pour apprendre la science. Le professeur صلى الله عليه وسلم lui a dit bienvenue à l'étudiant de science, mais طالب العلم. إن طالب العلم, et il a dit l'étudiant de science, il est entouré par les anges. Et elle le couvre avec ses ailes, de telle sorte que c'est-à-dire qu'il monte. Voilà. Ça fait des étages au-dessus de lui, avec leurs ailes jusqu'à ce qu'ils arrivent à Samad Dunya. Tellement ils aiment ce qu'il fait comme action. Donc, il y a le fait que les anges, ils baissent les ailes pour honorifier l'étudiant de science, et aussi, il y a le fait qu'ils l'entourent aussi, par leur protection, aussi dans le sens de l'honorifier et de protéger l'étudiant de science. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنحتها له. فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. Donc en premier lieu, le fait qu'il pose les ailes, c'est dans le sens de l'humilité et du respect et d'honorifier l'étudiant de science, et le fait de l'entourer, c'est le fait de le protéger, de l'entourer de protection. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزية من جنس عمله وجعل ما في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. C'est-à-dire que l'impact de l'homme de science, du savant, c'est un impact sur le monde qui est matériel et sur le côté aussi qui est côté spirituel. Nous, on pense que le fait d'apprendre la science, ça n'a qu'un impact sur nos cœurs et sur le côté qui est spirituel. Mais l'impact de la science, la propagation de la science de la charia, elle a son impact sur les deux mondes, c'est-à-dire sur le monde qui est autour de nous, qui est le monde matériel, parce que ce bien, le fait d'appliquer cette religion, c'est un bien pour ce monde. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, إن الله كتب الإحسان على كل شيء وكما قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وكما قال صلى الله عليه وسلم. Même dans le cadre de sacrifier un animal, le Rasoul صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah Azza wa Jal a écrit l'Ihsan sur toute chose, même sur le fait de sacrifier un animal. L'Ihsan en français, c'est la perfection. Et un autre mot, bienfaisance. On doit trouver l'intersection des sens en français pour essayer de trouver le sens le plus proche. Mais faire au mieux, et cela n'est pas négligé même dans le fait de sacrifier l'animal. Il dit, si vous êtes amené à égorger un animal, faites-le bien. C'est-à-dire qu'il aiguise notre mémoire, bien. Rabbi wafqna wa iyyakum. Qu'il aiguise bien l'outil avec lequel il va égorger l'animal, et qu'il pense au repos de l'animal qu'il va tuer. Même quand tu vas le tuer, même tu ne vas pas dire bon, il va mourir, allez, je vais faire vite, après tout, il va mourir. Mais malgré tout, même à ce moment-là, il faudrait faire attention à bien faire. Il faudrait bien essayer de faire en sorte de ne pas le faire souffrir. Et ça, c'est parmi le bien. Cette religion, elle est là pour le bien de ce monde qui est le monde matériel, et elle est bien pour notre pratique, qui est la pratique spirituelle. Et le fait que pour cet homme de science, il a fait que même tous ceux qui sont dans le ciel et la terre, et même les poissons dans l'eau, et la fourmi dans sa fourmilière, il prie, l'Azawajal demande que l'Azawajal dans la miséricorde à cet homme de science, parce que cette science s'est bien faite, elle s'étale à toutes les échelles d'utilité de ce monde. Ce n'est pas juste un bien dans le cadre de la religion. Le bien, les bienfaits de cette religion, ils s'étalent bien plus. On n'a pas besoin de mouvement écologiste du moment où on est dans la religion, parce que notre religion, elle pense à tout. Quand on est dans cette religion, il y en a quelque chose de parfait et de complet. On n'a pas un vide, on n'a pas besoin de rajouter à cette religion des choses qui paraissent nécessaires pour le bien de notre vie d'ici-bas et pour le bien de l'au-delà. Faire le din et anikamil. On n'a pas des ambiguïtés comme on en a parlé dans les cours qui étaient avant, le fait qu'on a une vision qui est complète de ce monde. On n'a pas des zones d'ombre ou des phénomènes devant lesquels on n'a pas d'explication. Nous, on ne croit pas aux martiens. On croit aux djinns. Mais on n'est pas dans le fait de vivre ou de croire et notre vie, il y a des martiens où ils viennent, ou avec des soucoupes volantes, ou toutes ces belles histoires. Tous les phénomènes qui sont autour de nous, on a une explication dans notre religion, parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Et le fait qu'il a créé, ça se voit à travers ce qu'il nous a envoyé comme révélation. Cette révélation, elle reflète, yani les attributs d'Allah Azza wa Jal, elle reflète le fait que ça vient d'Allah Azza wa Jal, et elle est forte en elle-même, comme a dit Allah Azza wa Jal, يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Il n'y a pas une zone d'ombre, une zone où on ne peut pas donner d'explication, il n'y a pas le triangle des Bermudes ou le carré de je sais pas quoi. Yani tout est parfait dans notre religion, telle sorte qu'on peut, quand on l'apprend, on est en confiance. On n'a pas, quand on évolue dans notre vie, on n'a pas quelque chose qui nous fait peur. Alors, tu te dis, attention, celui-là, il va faire, c'est une sorcière, ou c'est, je ne sais pas quoi, il est un voyant, il a des phénomènes que tu comprends. Non, on comprend tout, alhamdoulilah, avec notre religion. Et on peut faire face à tous les phénomènes qui nous entourent, et on peut y vivre dans une sérénité, la sérénité de celui qui maîtrise, qui a une vue d'ensemble réelle, du monde dans lequel il vit, tandis que celui qui est qui vit dans le monde qui est matériel et qui ne croit pas, etc., il a toujours des inconnus. Il ne peut pas expliquer comment se fait-il que le voyant indé, il sait la couleur du stylo qu'il a dans sa poche, alors qu'il n'y a que lui qui l'a mis dans sa poche. Il ne peut pas expliquer, alors qu'on trouve des gens qui se disent yani, très cartésiens ou autres, yani, qui devant ces phénomènes-là n'arrivent pas à expliquer yani, et donc ils prennent des fois des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'ils se sont mis comme règle de conduite. يقول ابن القيم ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العلم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له. نعم. Donc il est en train de donner le sens à cette partie du hadith, comme quoi même les poissons dans l'eau, même la fourmi dans sa fijouhriha, là où elle habite, ils font doua pour demander la miséricorde à Allah Azza wa Jal pour l'homme de science. Parce qu'il dit qu'il est en train de propager ce qui va dans son bien. Et ce qui va dans le sens du bien de ce monde. Et après, il a cité, il dit, wa fadlu al-alimi al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Donc, le supériorité de l'homme de science par rapport à celui qui fait l'adoration, à l'adorateur, kafadli al-qamar, comme la supériorité de la lune par rapport aux autres étoiles. On avait cité la dernière fois que l'alim c'est aussi un habit, mais tellement l'aspect de la science il est fort qu'à partir du moment où il devient, où il porte de la science, on lui donne l'attribut de alim. Et que celui qui ne l'a pas, cet attribut, cette caractéristique, le fait qu'il porte la science, même s'il est studieux dans l'adoration, on l'appelle habit, adorateur. Et celui-là, son bien, il est plus limité à lui-même, et le peu qui l'entoure, pas comme le savant qui, et ni par le fait qu'il apprend la science et qu'il la propage, et il a un champ d'action plus vaste que dans le sens de propager le bien que celui qui fait juste, qui est un adorateur, et c'est le sens de, c'est dans cela qu'il y a la ressemblance entre la lune et les autres étoiles. Hein, les étoiles, c'est comme les différents adorateurs, leur lumière ne dépasse pas, ne va pas très loin par rapport à la lumière de la lune. Et le fait de donner, de citer l'alim comme la lune, on avait dit, parce qu'il y a des différences entre les ulama dans leur niveau, et la lune aussi, elle a plusieurs niveaux. Elle commence juste par un petit croissant, c'est ça. Et elle peut aller jusqu'à la pleine lune. Et c'est ce qui fait la différence entre les savants. Hein, et il y en a qui ont un grand profit de cette science, il y en a qui ont peu, mais les savants, quels qu'ils soient, ils sont un bien pour cette humanité. Leur exemple, il va avec l'exemple de la lune. Et Ibn Qayyim, il avait posé la question, pourquoi dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi comme exemple la lune et non pas le soleil. On avait dit quoi? Parce que la lumière de la lune, elle vient d'autre part. Comme les savants. وجعلنا كيفاش سورة نوح الشمس سراج والقمر نور الشمس هي سورس دو لوميير والقمر سي ستان ريسبتور دونك il reçoit cette lumière et donc comme l'homme de science il prend sa science de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la révélation qui vient d'Allah azza wa jal, il y a cette similitude avec le qamar qui prend sa lumière du soleil pour la donner, pour la refléter sur terre, hein, qui est le fait de refléter la science, de propager cette science, ce bien aux autres. Et donc on a dit cette ressemblance, elle va dans ces deux aspects. L'aspect que la Lune, elle a plusieurs états, hein, du plus petit au plus grand, ça fait la différence qu'il y a entre les savants, qu'elle profite de sa lumière et du soleil, et donc ça fait le fait que les hommes de science y prennent leur science de la révélation, et que cette science, que cette lumière, elle n'est pas interne à la lune. C'est ce que nous propose la philosophie. La philosophie, ce qu'elle dit, que la science, elle est interne à l'homme. C'est lui qui illumine ceux qui sont autour de lui à partir de des résultats qui lui sont internes. Et c'est ce qui fait la différence entre cette science et la religion. Dinara, il est basé sur la maîtrise de la révélation qui définit le savant. Et ça, c'est quelque chose d'important dans le minhaj dans lequel on est en train de suivre. Le droit chemin, hein, qu'on demande à Allah Azza wa Jal sur Al-Fatiha chaque jour, Aïdina Sirat al-Mustafim, ce droit chemin, il a des caractéristiques. Hein. C'est le chemin sur lequel a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et la source de science qu'il recèle, elle vient de la révélation. Et ça nous donne des indices pour certains qui, des fois, entendent beaucoup de beaux discours. Ils se disent que peut-être la vérité, comment je peux savoir la vérité parmi tout ce que j'entends? C'est-à-dire, dans ce que tu entends, il y a de gens, même s'ils ont de belles paroles, tu vas remarquer qu'il y a certains que lorsqu'ils parlent, ils ramènent peut-être des beaux raisonnements, mais c'est des raisonnements qui sont internes à eux. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à la révélation. Le Kitabullah, ou Sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un raisonnement qui est basé sur des versets, sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de montrer la valeur de l'héritage qui nous vient de notre salaf. Hein, on dit Imam Malik, il a dit, ou Imam Shafi'i, on dit Sahabi Fulani, il a dit ça, Tabi'i, etc. Il y a certains, leur discours pendant une heure, c'est des raisonnements qui sont philosophiques. Il va faire des montages, des bosses, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. La lune, elle prend la lumière, pas d'elle-même, mais elle la prend du soleil, l'alim. pour dire qu'il est alim, il faut qu'il prenne ce ilm de la révélation, le kitab ou le sunnah. Et il ne prend pas ça d'ailleurs. Hein, donc on n'a pas de notion de penseur, de philosophe. Et qu'est-ce que ça fait rien. Ça n'a rien à voir avec la lune. Voilà. Parce que la lune, elle prend sa source de la révélation. Et le penseur, il va nous donner quoi? Il va nous donner ses pensées. Mais je ne cherche pas ses pensées. Ses pensées, il les laisse déjà pour lui-même. Ça peut lui servir pour régler ses problèmes personnels. Ça peut aller. Mais qui nous laisse tranquille? Yani, déjà dans notre vie, on a assez de problèmes pour encore ramener d'autres ou pour prendre d'autres raisonnements. La vie, elle est assez courte. Si tu vas lire tous les livres des philosophes de tout le monde, etc., ta vie, elle sera... même si tu as l'envie de connaître toutes les vérités du monde, tu ne vas pas lire tous les livres que tu trouves, tu ne vas pas écouter tout ce que dit tout le monde. Yani, tu as besoin d'avoir le chemin qui est court, qui te permet de savoir c'est quoi la vérité, et ce chemin il se trouve dans la révélation qui nous vient d'Allah Azzawajal. Ce Coran, Allah Azzawajal nous a envoyé le Coran, il nous a envoyé cette révélation qui est la parole d'Allah Azzawajal, qui est le Coran, et cette révélation à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation pratique qui est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cela, c'est les sources de la science qu'on a à suivre, et c'est quelque chose d'important pour nous, pour savoir la vérité, pour savoir si on est ou pas sur le droit chemin. Tu dis, voilà, pour comprendre tel ou tel problème, vas-y lire le livre de tel penseur. On a beaucoup, il y a de Moustalah, cette utilisation, c'est bien connu, de certains mouvements aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a la notion, quand ils disent du'at, ceux qui invitent les gens à l'islam, ils utilisent ce terme plus que le terme des ulama. Parce que la caractéristique qu'il y a aujourd'hui dans tous les mouvements qui ne sont pas sur le droit chemin, c'est qu'ils ne sont pas porteurs de science. Ce n'est pas des mouvements qui sont basés sur des hommes de science. Ils sont plus proches de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, quand il a dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. Donc il a posé la question à Hudayfa ibn al-Yaman. Il a dit, les gens ils posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien, et moi je vais poser des questions concernant ce qui pouvait arriver comme mal. Et je lui ai dit, nous, Allah Azza wa Jal, on était dans une jahiliya avant, dans un char, et Allah Azza wa Jal nous a ouvert une terre de bien, hein, ce bien, est-ce que après ce bien, est-ce qu'il y aura un mal? Hal ba'da hada al-khayri min char? Rasulullah sallam, il a dit, na'am, oui. Hadith al-Yaman, il a continué. Il a dit à Rasulullah, hal ba'da dhalika sharri min khayr? Est-ce qu'il y aura le renouveau après le fait qu'il y aura un mal après cette ère de bien, hein, qui a commencé par la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que de nouveau il y aura le mal qui va régner. Et le compagnon il a continué sa question, il a dit, après ce mal, est-ce que le bien reviendra? Rasulullah sallam, il a dit na'am, walakin fi idakhan, mais il y aura des impuretés, il y aura avec ce renouveau, il y aura des problèmes, il y aura des impuretés, selon la traduction qu'on peut dire, anil dakhan. Et le compagnon, il a dit, wama dakhanuhu, c'est quoi, anil, cette impureté, c'est quoi, c'est ce problème, anil, dans la renaissance, que connaîtra cette umma, inshallah, c'est la phase qu'on connaît, il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, du'atun yad'una bighayri huda ta'rifu minhum wa tunkir. Il y aura des du'as, des gens qui vont appeler les gens vers leur religion, mais leur caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas le huda. Yad'una bighayri huda, c'est qu'il y aura des du'as, mais ils n'auront pas la science. Ta'rifu minhum, tu vas reconnaître certaines choses qui sont de la religion, wa tunkir ashay, tu vas dire non, ça c'est bon, c'est la sunnah, ça c'est pas la sunnah. C'est-à-dire, c'est la caractéristique de beaucoup de du'at qui ont été des fondateurs des grands mouvements qui ont dévié du droit chemin, et aujourd'hui, si on va voir Tabligh, Ça fait 2 siècles, c'est Mohamed Ilyas al-Kandahlawi. Tu vas voir sa biographie, parce que quand on veut discuter d'un mouvement, il faut discuter de... Il faut parler de son fondateur. Il ne faut pas parler à rien de quelle jeunesse. Il y a des gens, ils se disent, oui, c'est non pas c'est qui a fondé. Il m'a dit, oui, l'imam Malik, il a fait le Khourouj. Je dis, bon, c'est bon. Je ne pouvais plus discuter avec lui. Il y a des limites, il y a de discussion. On ne peut pas aller plus loin. Je dis, quand même, tu ne sais même pas l'histoire, il y a ni du mouvement auquel tu appartiens. C'était Mohamed Kandahlawi qui a fondé, j'ai mal d'Awa Tablir, qui a fondé l'idée de Tablir parce qu'il a vu dans le rêve le sens de Kuntum Khayra Ummatin Ukhrijat Linnas. Et il a pensé, à l'idée de Tassiyah, le fait de voyager dans le sens de porter Dawa à l'humanité. Et le fait que ce mouvement de propagation d'Awa, c'est le sens de ce verset. C'est quand on voit sa référence par rapport à lui, quelle que soit sa bonne intention, on n'est pas là en train de parler du fait qu'il ait ou pas une bonne intention. Quand on voit ses bagages dans la science, on trouve que ce n'est pas un homme de science. C'était quelqu'un qui était influencé par les mouvements soufites qui étaient de son temps et dans son contexte. Ah, il كان متأثر بالنقشبندية السهروردية القادرية. Il restait devant le tombeau de Chour qui était saint toute la nuit en essayant de demander, en pensant que ça faisait partie de l'adoration. Et donc on voit très bien que des fondateurs comme ça, malgré qu'ils sont des douates, qu'ils sont des bonnes intentions, mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas le houda, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, douatun, yad'una bi ghayri houda. Ils n'ont pas la science, c'est pas des hommes de science, c'est pas des hommes où on peut dire, même les plus fervents de ceux qui les suivent, tu lui dis, est-ce que c'est un savant? Il s'arrête, il va dire, c'est un da'iya. Parce que si tu s'il dit qu'il est un savant, tu lui dis, bon, montre-moi ses résultats, montre-moi ce qu'il a fait comme netter, comme écrit, etc., qui monte. Il ne s'agit pas de dire tel ou tel savant, il ne s'agit pas de se jeter des fleurs à Gdakiani gratuitement. On est en train de faire un constat de vérité, et c'est dans le sens d'essayer de trouver la vérité, de se conseiller nous-mêmes et de conseiller nos frères. Quand on voit le grand mouvement Tal, les frères musulmans aussi, les frères musulmans, Al-Mu'assis Hassan al-Banna, 1924, l'idée sur laquelle il a fondé son mouvement, c'était le fait que nos ennemis, ils nous combattent en étant groupés, il faudrait qu'on fasse la même chose, qu'on se groupe, qu'on fasse une grande, les frères musulmans, qu'on fasse une grande association, un grand lien pour se lancer dans ce domaine. Est-ce qu'il était un homme de science? Parce que Hassan ibn Banna, c'est un alim, même pour ceux qui le suivent, on va te dire non, c'est un da'iya, et on va toujours dans ce sens-là. On revient à notre hadith, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple du savant par la lune qui prend sa source de science, sa source de lumière du soleil. Ces grands mouvements aujourd'hui, ils ont dévié par le fait que les fondateurs eux-mêmes qui ont fondé ces mouvements, malgré Tefani, qu'ils avaient peut-être une très bonne intention dans le sens de vouloir le bien à cette religion. Peut-être ils avaient une très bonne intention, mais ils n'avaient pas la science. Ils n'avaient pas une condition qui est nécessaire et qui est importante dans le cadre d'assurer le fait qu'on est sur le droit chemin, qui est la condition de la science. Et cela, ça se voit par les déductions qu'ils ont faites, par ce qu'ils ont avancé dans leurs écrits, et pour ceux qui étudient ce qu'ils ont laissé comme écrit, etc., leur éloignement de la science se voit à travers leurs écrits, les déductions qu'ils ont faites, et c'est ça qui a fait beaucoup de dégâts dans notre nation. C'est le fait qu'on a pris comme référence, pas des hommes de science, mais des hommes qui peut-être ont des bonnes intentions, mais ils n'avaient pas cette science. C'était des douates. Le sens, le mot, l'utilisation de douates, moufoukirin ou douates, on est passé de l'échelle des savants, de suivre les savants, à l'échelle de suivre la notion de douate, la notion de penseur, de philosophe, et tous ceux qui se divisent du fait d'essayer de ne pas suivre les savants ou minimiser l'importance du rôle des savants dans notre religion. Ça, c'est un signe qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Le fait de dévier du droit chemin, parce que suivre ce chemin, c'est le fait de se limiter à cet héritage qui nous vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses compagnons et tabi'in qui sont venus après, suivre le chemin sur lequel étaient nos vieux prédécesseurs. Je vais mettre un petit peu éloigné, mais des fois, j'aime bien insister sur des points qui touchent à notre vécu. ابن القيم يدي في العلماء نجوم لهذا الصنف من الشياطين والولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين ولكن الله سبحانه وقامهم حراسا وحفظ لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسوله فهذا وجه تشبيههم بنجوم أو بالقمر كما ذكرناه فيما سبق وقوله إن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول que les savants sont les héritiers du prophète. C'est un des plus grands caractéristiques qui font l'éloge des savants. C'est eux les héritiers du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que cet héritage de la révélation ne peut être que pour les savants. Et donc, si on veut aujourd'hui suivre le prophète, on ne peut le suivre qu'à travers ses héritiers, parce que le prophète, il est mort. Et donc, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé un héritage. Et si nous, on veut suivre le prophète, on est obligé d'aller vers ceux qui portent cet héritage du prophète, qui sont les savants. Mais ça, pour tous ceux qui veulent t'embrouiller sur l'importance des savants, etc., tu lui dis, t'as pas de fuite, t'as une obligation de suivre des savants. C'est pour ça que même ceux qui dévient ou dont t'acquiert, etc., ils essaient toujours de trouver n'importe qui, comme on dit, celui qui veut, qui n'a pas de preuve, yani, il est même avec le petit faisceau lumineux qui vient du soleil, il te dit c'est un fil. Hein, c'est enfin, tellement, yani, ils n'ont pas d'argument. Et les gens qui divisent du droit chemin, ils essaient de trouver, contre cette argumentation, le fait de dire, voilà, qui sont vos savants? Avant, les gens du hadith, ils disaient, « Semmoulana rijalakum » pour qu'ils connaissent c'est quoi le hadith sahih min da'if. Aujourd'hui, pour que nous, on sache c'est quoi le bon chemin du mauvais chemin, on dit à certains, « Semmoulana ulama'akum » Dites-nous, c'est quoi les savants que vous suivez? Parce que s'il va dire, « Suis-moi », je dis, « Toi, laisse-moi, t'es qui, pour que je suis ?» Ça n'a pas de sens, c'est un étudiant. Enfin, je ne pense pas qu'il y en a qui auront l'arrogance d'aller jusque-là. Bon, il y a de tout, yani, on entend de tout. Sait-on jamais. Mais yani, la règle, c'est ça. Cite-nous tes savants pour qu'on sache yani, quel est le chemin que tu es en train de suivre. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la religion comme ça, tout seul, comme tu veux. Tu es obligé d'avoir des références auxquelles tu te réfères. Des savants, tu ne vas pas me dire, oui, il y en a certains, tu dis, ouais, ma référence, c'est le Coran et la Sunna. Mais on ne te pose pas cette question, c'est très bien que c'est le Coran et la Sunna. Mais toi, tu n'as pas la possibilité d'accéder au Coran et la Sunna directement. Tu ne vas pas nous faire un nouveau tafsir. Tiens, tu ne vas pas nous faire un nouveau Sharh Sahih al-Bukhari. Tu es loin de là, même si tu essayes. C'est pas possible. Tu as besoin des savants, tu as besoin dans la science. Dans l'adoration, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas d'intermédiaire, mais dans la science, tu as besoin. Tu es obligé d'avoir un intermédiaire. Tu ne peux pas accéder au texte sans suivre les savants. Maintenant, c'est pour le coup, mais nous, on suit Kitab al-Sunna, on ne fait pas de taqlid. On ne fait pas de taqlid, mais on fait les tibas. C'est une notion. On ne fait pas le suivi à règle, mais on fait on est obligé de suivre les savants en connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle l'itiba. L'itiba, c'est une de nos obligations. Le fait de suivre les savants. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de taqlid. Taqlid, c'est ce qui est réprimé, c'est le fait de prendre une référence parmi les savants et de considérer que cette référence est une référence absolue. Tous ceux qui contredisent mon cheikh, allez, en dehors. Ils ne sont pas sur le ménage. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle ta'assob. Tu prends une référence et tu ne prends pas l'ensemble des savants et ni comme référence. Là, on prend dans le fiqh, on prend de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ahmed ibn Hanbal et d'autres qui étaient leurs contemporains, les ibn Sa'd, Sufyan Thawri et d'autres, parce que c'est eux qui nous rapprochent les textes. C'est eux, on utilise leurs efforts, et on est obligé de passer par l'effort des savants pour se rapprocher des textes. Mais on ne donne un aspect de sainteté à aucun d'eux. Il n'y a personne parmi les savants de l'ancien et d'aujourd'hui qui a un caractère saint, absolu. Il y en a qui ne se trompent pas
surtout ce qu'il dit ou qu'on prend comme référence, yani surtout ces dires qu'il faudrait qu'on suive à 100%. Certains aujourd'hui, si tu ne suis pas le chef, si tu vas le suivre à 90%, il va te dire non, c'est pas bon, il faut que tu suives 100%. Yani tout ce qu'il dit, à la lettre. Si jamais tu divises d'une lettre, il t'expulse. Il y a toujours de l'exagération sur ces points-là. Et ça, c'est des règles, concernant le mariage, qui sont des règles immuables, yani, pour savoir la vérité. Il n'y a personne qui est au-dessus de ces règles. Il n'y a pas un chef qui est au-dessus de ces règles. Il n'y a pas un mouvement qui est au-dessus de ces règles. Les règles de la vérité sont immuables, yani, elles sont claires. Et comme on a, au passé, yani, on a dit qu'on ne prend pas une référence absolue, quelle qu'elle soit, dans les grands savants du passé, alors que l'imam Malik, c'est l'imam d'Ar-Lija. C'est l'imam où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il arrivera un temps où les gens ne vont prendre comme leur moyen de locomotion que pour aller, pour apprendre la science à Alim al-Madina, l'Alim de Médine. Et malgré ça, malgré cela, on ne le suit pas sur tout ce qu'il dit. C'est parce qu'on ne considère comme référence absolue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a à suivre l'ensemble, yani des savants. On sait que la vérité, elle est dans cet ensemble. Mais elle ne peut pas être que dans un seul. فورثتهم خير الخلق بعدهم ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسل به إلى العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث donc l'héritage ça montre le fait qu'ils sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'y a d'héritage que pour des proches. Le fait de citer l'héritage, c'est citer le fait qu'ils sont proches. Il n'y a pas d'héritage à des gens qui sont lointains. Et l'héritage, il se fait aux proches, et ça montre que les savants sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à partir du moment que certains ne nous citent pas le savant, ça montre qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Et on a dit, certains vont chercher des noms un peu partout, des gens inconnus. L'autre me dit, tu connais le Maqdisi? Moi je pensais que c'était le Maqdisi. Il me dit, oui, contemporain, je sais pas. Je lui dis, mais d'où tu sors cela? Tu as laissé tous les grands. Tu as laissé Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, Cheikh Nouba, Cheikh Nouzaymin, tous les grands qui ont vécu avec cette révélation. Cheikh Albani, il a fait plus de 60 ans, 70 ans avec le hadith. Toi, peut-être, tu les as fait avec autre chose. Enfin, tu n'étais même pas arrivé à cet âge-là. Il a fait ton âge en étudiant le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens qui sont proches, des textes, tu les considères comme étant des gens déviés. Hein? Tu fais comme les chiens. Les compagnons qui étaient les plus proches du prophète, ils te disent non, ils ont dévié du droit chemin. Et ceux-là, ils disent la même chose, des savants, alors que ces savants, ils ont œuvré toute leur vie, ils ont toujours vécu proche des textes du hadith et du Coran, ce qu'ils n'ont pas fait eux. Lui, il vient, je ne sais pas quoi, il était dans le football, ou là, il était dans le sport, ou là, il était je ne sais pas quoi, et Ranchouya dans le déni, il commence à faire des analyses géopolitiques, où il va dire l'Arabie Saoudite, ou je ne sais pas quoi, il te ramène n'importe quoi. Cite-moi, il va rentrer dans un verset, Shaitan, il lui fait gonfler qu'il est intelligent, et qu'il est fort, et qu'il a une suprématie intellectuelle, et voilà, il va dire, il commence à juger des gens qui sont gibelles, des montagnes dans la science. Qu'est-ce que devant Cheikh Rabbani? Qu'est-ce que tu as fait, Dinana? Tu n'arrives même pas à comprendre c'est quoi le hadith sahih, da'if. Tu n'as même pas. Qu'est-ce que tu as œuvré pour cette religion? C'est des gens qui ont fait toute leur vie. Cheikh Rabbani, il l'a vécu, il a fait lui-même, le Faharasa. Il a répertorié tout le makhtotat qu'il y avait dans le Maktab al-Dahiriya à Dimashq, à Damas, en Syrie. C'est un effort que font un contingent d'étudiants. Et il l'a fait lui tout seul. Il connaissait c'était une grande mektaba, où il mettait le makhtoutat, je ne sais pas en français comment on appelle ça, ça n'existe pas en français, ça existe une bibliothèque. En France, il y a des makhtoutat qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas. Si tu veux voir, mais bon, pour y avoir accès, ce n'est pas aussi évident. Il y a des marteaux têtes. Moi, j'étais avec mes, à la Mecque et Médine, j'étais devant le fils de Cheikh Ahmed Ansari. Il m'a dit, oui, t'es à Paris, etc. Oui, j'ai besoin de, des fois, si tu peux aller là-bas à la bibliothèque de Paris pour essayer de trouver la copie d'un tel ou tel manuscrit. Il y a beaucoup de manuscrits qui existent en Europe, qui n'existent pas ni à la Mecque, ni à Médine, ni, ni en Turquie. Hein, il y a beaucoup de manuscrits qui ont été volés, qui ont été pris, dans la colonisation, qui ont été pris au monde musulman. Et là, il reste beaucoup de recherches, il reste beaucoup d'efforts à faire. Et c'est des choses peut-être qui nous font sourire, mais on a beaucoup de marteaux-têtes qui existent ici, en bibliothèque qu'on a à Paris, ou d'autres que, j'ai dit, des grands savants n'ont pas, à la Mecque et Médine. Et donc, lui, là, il a vécu toute sa vie dans ça, et il a fait référencer à chaque fois qu'il trouvait un hadith, il mettait la source terre, etc. Et c'est pour ça qu'il est très riche, Cheikh Al-Albani Rahimahullah, quand il s'agit d'être riche, même Cheikh Ibn Baz, qui n'est pas un savant, qui n'a pas de profondeur dans Ilm al-Hadith. Cheikh Ibn Baz, c'est quelqu'un, c'est une référence, un hadith, il l'apprenait par cœur, les rijals, etc. Tu le citais, c'était une mémoire... extraordinaire, les hadiths. Et lui, il était étonné de Tahrij Cheikh Albani quand il citait un hadith, dit Rawa Fulan ou Fulan ou Fulan et dans tel livre, tel livre, tel livre. Il citait une dizaine, une quinzaine de références pour un hadith, alors que quand tu vas lire certaines références, tu vas trouver deux ou trois références, deux ou trois, le fait de citer un hadith par rapport à une ou deux sources, etc. Lui, il allait plus loin, il allait très loin, il ne s'arrêtait même pas sur le fait que ce hadith, il a été, Cheikh Salim Ibn Taymiyyah a dit sahih, ou Dahabi a dit sahih, non, il va dans le détail. Il va dans le détail, c'est-à-dire qu'il rentre dans les sahih, il va chercher la chaîne, il va chercher tout ce qui a été dit sur les hommes tel hadith, c'est vrai, il fait un travail qui est formidable, c'est pour ça que le jour, Cheikh Rabi' il a dit depuis Ibn Hajar, il n'y a pas eu comme Cheikh Al-Albani. Même dans le fait de maîtriser Ilm al-Hadith, c'est une maîtrise, c'est assez exceptionnel. Et malgré ça, il y a des gens lyonnais qui n'ont de culture que. Qui ont peu de culture, c'est-à-dire la culture qui est occidentale, qui viennent, qui rentrent dans le din et qui se permettent de dire qu'on peut passer outre les efforts et la présentation que font nos savants, de l'état des musulmans. C'est vrai que celui qui n'a pas de science, il va aller à autre chose. Ah, il va rentrer dans la politique. C'est bien les histoires de considérer les gouvernements qui sont dépendants des États-Unis. Peut-être une vie, il a le coffre déjà. Celui qui critique ça, il est en Angleterre, il me dit l'Arabie Saoudite, est-ce que... Mais toi, tu vis en Angleterre. Bon, allez, on applique avec le hadith. Rasoul, il a dit, il te dit, non, mais là, c'est-à-dire que, dans mon cas, l'Arabie Saoudite aussi, c'est-à-dire, etc. Le cas, pourquoi tu te donnes, toi, des arguments que tu ne donnes pas aux autres? Pourquoi tu veux aujourd'hui, allez, certains, ils n'arrivent pas dans certains pays, ils souhaitent juste qu'on les laisse rentrer tranquilles dans leur pays, avec leur petite barbe, machallah, le sunnah, qu'on les laisse tranquilles. Ils critiquent des pays où, des universités ouvrent leurs portes pour que tu apprennes din, pour que tu saches sunnah, ou des pays qui mettent comme leur, c'est-à-dire le symbole de Hamsi, Harb Shirk, etc. Ils les critiquent, tu ne comprends pas. Tu dis ça, c'est une ni'ma. Dans l'histoire, il y a peu de gouvernements qui ont soutenu le tawhid. Lis ton histoire. Et tu vas voir, il y a Mu'tazir, après Mu'tazir al-Jahmiya, après, il y a plein de parties. Si tu vas voir l'histoire, les phases dans lesquelles on avait des gouverneurs qui soutiennent la question de Tawhid, c'est assez rare dans l'histoire qu'on a connue. Donc c'est assez exceptionnel ce que tu as aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite. C'est vrai que tu n'as pas des anges. C'est vrai que tu as des gens qui sont influencés, comme tu es influencé, comme on est tous influencés, parce qu'on sort d'un cadre où on a été colonisé. On ne sort pas, nous, on n'a pas pris ça fait 50 ans, il n'y avait pas Omar ibn Khattab ou Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, on était bien loin. On a pris un héritage, alhamdoulilah, on essaie de faire au mieux pour essayer de revenir sur le droit chemin. Il faut vivre la réalité, sinon vous ne vivez pas la réalité. Vous parlez des livres, vous amenez les ayats, les hadiths. La réalité, c'est les États-Unis, c'est les Houthis, c'est ces francs-maçons qui sont en train de vous combattre. Qu'est-ce que tu fais? Le plus grand mal, c'est l'ignorance dans laquelle on est en train de vivre. Le plus grand mal, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas, j'allais dire, à appliquer certaines règles, certaines choses. La sunna du prophète, on n'arrive pas à les faire sortir, on essaie de libérer. notre terre, la Palestine, on n'arrive pas à libérer nos visages de l'influence de l'Occident. Hein? Si on va dire aux musulmans, Masha'Allah, faites un effort, Houthi, pour la sunna du prophète, qu'on a délaissé à cause de la colonisation, laissons pousser un petit peu juste nos bols, parce que ça, si on veut faire énerver notre ennemi, c'est pas ça, c'est pas par Coca-Cola ou le type ne peut boire, ça, j'en ai déjà pas. Mais si on voit des balles un petit peu pousser un petit peu partout, ça peut déranger comme ça, déranger le fait juste de les... C'est un burqa ou un niqab, etc. Fais un effort, libère ton visage, fissabilillah. Libère ton visage de l'impact de l'Occident. On n'arrive pas. Si on leur dit ça, si tu dis ça à l'ensemble des gens, il y a peu qui vont te suivre. Mais si tu leur dis, nos gouvernements, ils ne sont pas bien, tout le monde dit, Allahu Akbar, c'est vrai, etc. Subhanallah al-Azim, pourquoi? Parce que là, quand le chemin vers lequel, le chemin qui mène au changement, quand ça te touche, tu dis aïe. Hein? Tu dis non, non. Quand ça touche aux autres, ça te plaît, parce que ça ne touche pas ta personnalité. Et que le problème, la solution qu'il y a aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla nous a pas laissé dans ces solutions. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Il faudrait qu'on arrive à faire le changement de nous-mêmes pour que Allah Azza wa Jalla change, yani, l'état dans lequel on est en train de vivre. Il n'y a pas une autre solution. Rabbi yahfidna wa iyyakum. وقال علي بن أبي طالب محبة العلماء دين يدان الله به. Le fait d'aimer les ulama, ça fait partie de l'adoration avec laquelle on doit adorer Allah Azza wa Jal. Et ces savants sont, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de montrer la vérité aux gens et les gens qui sont sur le droit chemin, comme a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, Ahlus Sunnati, a'lamu an-nas bil-haq wa arhamuhum bil-khalq. Ahlus Sunnah, c'est les gens qui sont les plus près de fait de connaître la vérité, c'est eux qui détiennent la vérité et c'est eux qui sont miséricordieux par rapport à l'ensemble des musulmans. Et cette miséricorde, beaucoup de nos frères ils l'ont oublié aujourd'hui. Ils vont vers des textes, je ne sais pas comment ils font, mais présenter certaines choses, présenter le fait de l'hajj, etc. Et c'est pas l'image qu'on connaît surtout par rapport à l'awam al-nas. Le mubtada', c'est celui qui a. Et qui a pris la bid'a, qui sait qu'il est sur une bid'a, qui persiste dessus. Awam al-Muslimin, aujourd'hui, par la faiblesse dans laquelle on est en train de vivre, on vit dans un contexte où la sunna, elle est minime. Et autour de nous, on ne trouve que des gens déjà réalisés. Le fait qu'ils viennent à la prière, c'est quelque chose de fort. Yani, on a beaucoup de nos confrères, dans notre famille, des gens qui ne prient pas ou qui sont loin de la religion, etc. Donc, et cette faiblesse a fait que les bid'as se propagent facilement. Les scènes, il n'y a peu de science. Donc, l'ensemble global de l'awam al-muslimin, il est plus proche de la bid'a que de la sunna. Ici, moi, je dis, voilà, cet ensemble de musulmans, il est en train de faire le bid'a, je vais faire l'âge, je vais vivre tout seul, tu vas vivre avec qui? La majorité d'entre nous, ils n'ont pas assez de bagages de science pour être vraiment sur le droit chemin, etc. Il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas l'accès, comme en certains, ils suivent, ils pensent que c'est ça la vérité, alors que c'est faux. Il y a beaucoup de bons acteurs, c'est pour ça les ulama, quand ils sont venus au hadith, que les juifs, ils se sont divisés en combien de parties? 71. Nasara en 72. Musulmans en 73, dans le hadith. Ce hadith, il est arrivé là, pour sahih, etc., il n'y a pas de problème. Après le ulama, il parle de ziyada. Kullu afinar illa wahida. Il y a beaucoup de controverses concernant un ziyada. Il y en a certains, ils ont même, Ba'dal ilm, qui ont dit non. Cette ziyada, le fait de dire que dans cet ensemble, il y en a en enfer, sauf une, il y en a même, il a inversé, il a fait tous, ils sont au paradis, sauf une. Enfin, tiens, quand tu vas lire, ils sont allés dans l'opposé, tellement ils ont dit. Il a dit que cette nation, c'est la moitié du paradis. Et donc, les hadiths, ils ont vu comme s'il y avait une contradiction. Ils disent, c'est pas possible que le prophète nous dit de cela que cette nation, c'est la nation musulmane, c'est la nation qui sera la plus importante en nombre le jour du jugement dernier, et qu'elle sera la moitié, qu'on sera la moitié du paradis, inshallah. Que Allah Azza wa Jalla fasse qu'on y soit. Vous et tous ceux qui entendent cela. Donc, et que là, on comprend que la majorité de cette Oumma, elle est en enfer. Hein, si tu vois ce hadith, ils ont dit, on comprend que la majorité de cette Oumma. Et donc, cet ulama, ils sont rentrés dans le fait d'expliquer ce hadith, dans le sens de dire voilà que al-bid'ah, c'est-à-dire que ceux qui sont condamnés à aller en enfer, puis al-bid'ah, et en plus ça c'est l'enfer des musulmans, pas l'enfer tel kuffar, donc cette bid'ah, yani l'atkhruj min itar l'islam il al-kuffar, ils ont dit c'est les fondateurs de la bid'ah, c'est ceux qui la connaissent, ou ceux qui la prennent en connaissance de cause, en connaissant la sunnah. Tandis que l'ensemble des musulmans ne sont pas concernés par cela parce que ils sont excusés par le fait qu'ils n'ont pas de science, ils sont excusés par le fait que la sunnah, et à certaines périodes, elle n'est pas assez forte. Et c'est la réalité dans laquelle on est. Sunnah, yani celui qui va lire aujourd'hui les livres qu'il y a, il rentre dans l'islam, il va trouver plus, yani les écrits d'Al-Ikhwan, les écrits de peut-être de l'Ahbash, il va aller, peut-être il va trouver dans les bibliothèques tout ce qui les entoure, toutes les idées qu'il y a autour de nous, on n'a pas, c'est-à-dire le mouvement qu'il y a de suivi d'Al-Muslimin n'est pas dirigé vers les savants. Il est dirigé, yani, un petit peu partout. Celui en France, il dit non, je suis ceux qui sont en France, je vais suivre tel penseur ou tel... Il y en a beaucoup qui sont influencés par ça, et beaucoup ils tombent dans ce piège-là, malgré leurs bonnes intentions. Donc le Moubtada sur lequel Oqimat Ali al-Hujja, parce que certains disent, oui, moi j'ai fait l'Iqamat al-Hujja sur tel frère. Je lui dis, Ntaya, déjà quand tu parles, moi j'ai des vérités, quand tu me parles, tu me fais des doutes sur mes vérités. C'est pas que tu me montres la vérité. En fait, les vérités que j'ai déjà, avec la mauvaise manière avec laquelle tu es en train de parler, et les mauvaises façons que tu prends, yani tu c'est pas possible. Comme a dit Cheikh Al-Albani, il y avait un qui lui posait la question, il voulait arriver à tout prix à dire qu'un tel il est kafir. Il lui a dit, mais est-ce que tu as fait l'effort? Il lui a dit, je fais. Il lui a dit, c'est ce que tu penses. Tu penses que tu as fait Iqamat al-Hujja. Mais qu'est-ce que tu dis que Iqamat al-Hujja t'a accès, elle est à la hauteur, que tu as fait ce qu'il fallait, que tu as montré la vérité avec le bon moyen à tes frères, que tu as choisi yani, la majorité pense que juste parce qu'il a dit la phrase, il a dit il faut suivre comme ça, etc. Il a lancé yani, des phrases ou des formules toutes prêtes, que c'est bon. Et le Hujja al-Qimat, que s'il n'a plus de chouboir dans sa tête, que non, la réalité elle est tout autre. Beaucoup de frères, peut-être ils ont plein de questions, ou peut-être ils sont rentrés dans des choses qui étaient fausses, mais pas par manque de bonnes intentions, mais par manque de science, parce qu'ils pensent que c'est le muta'awilin, yani. Et si on peut trouver des excuses à des grands savants, ta'awalu fi bab sifat comme Ibn Hajar ou Nawawi, comment on peut ne pas trouver des excuses à l'awam al-muslimin qui n'ont pas eu autant de science que ces savants-là? Les savants, quand ils parlent yani, de grands, ils sont tombés dans des choubouettes ou dans certaines des erreurs. Alors que quand on parlait de Awam al-Muslimin, qui n'ont pas autant de bagages. Donc, et ça, tout ça, c'était l'influence pour ces savants-là, c'était l'influence de l'Biha dans laquelle ils ont vécu des choses de qui ils ont pris. Donc, ils ont pris des choses qui étaient bonnes et ils ont pris aussi des choses qui n'étaient pas bonnes et sur lesquelles ils ont été yani, critiqués. Alors que quoi on parlait de le commun des musulmans qu'on connaît aujourd'hui, on a plus à faire l'effort d'essayer d'être des bons exemples et d'essayer d'être des porteurs de science et d'essayer de maîtriser yani, déjà de la science de la chara et de donner le bon exemple avec notre bonne morale et l'akhlaq et avec la patience parce que certains, ils n'ont pas de patience et ils veulent justifier leur impatience par le manque de suivi des autres ou l'ignorance des autres. Et en réalité, c'est eux qui sont impatients. Ils veulent avoir ça vite fait. Ils pensent que juste s'il a fait un effort pendant une discussion ou deux ou pendant un mois ou deux, c'est bon. Non. Des fois, pour que tu obtiennes l'idée de quelqu'un qui t'est proche dans le dîn, tu as besoin des années. Il a besoin de voir parce qu'il y a tellement de choubouettes qui tournent, il y a tellement de mauvais exemples qui tournent qu'on a besoin de beaucoup de temps pour essayer de les convaincre. Il y a des gens, ils sont sur la vie. Mais le fait que tu essaies de discuter, tu n'as pas assez, tu n'as pas assez eu assez de science ni assez de bonne morale pour montrer la vérité aux autres. Et donc là-dessus, le fait de bien maîtriser la science, de suivre les gens de science, comme a dit Cheikh Hassan Ibn Taymiyyah, nous les gens qui sont sur la sunna, sommes les gens qui sont les plus proches de la vérité et les plus miséricordieux de ceux qui nous entourent, de Awam al-Nas. Les Awam al-Nas, ils ont besoin de qu'on soit, yani, qu'on aille doucement yani, avec eux, dans le sens de les ramener vers le droit chemin, comme a dit Cheikh Al-Albani, déjà la vérité, il dit, la vérité est lourde. Il ne faut pas qu'on l'alourdisse encore, en plus avec notre mauvais comportement. Il a dit, déjà le haq lui-même, le fait qu'on se dise des vérités, qu'on essaie de la propager, c'est lourd, et la résistance qui envers cette vérité, elle est de nature. Donc, l'insan, il rajoute quoi, sur cette vérité le fait qu'il a un mauvais comportement, ou qu'il ne choisit pas les bons moyens, ou qu'il ne patiente pas quand il conseille ses frères, l'insan, il aime que parler, il écoute peu, etc. Alors qu'un dialogue pour essayer de faire da'wah à celui qui est autour, il vaut mieux que tu passes dans la position que tu l'écoutes plus que de parler. Plus tu l'écoutes, plus tu comprends où il y a des ambiguïtés dans son raisonnement. Hein. Et des fois, on n'a pas cette patience. وقوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il a dit que les prophètes n'avaient pas d'ambition matérielle envers ceux qu'ils appelaient sur le droit, vers le droit chemin. لا أسألكم عليه أجرا. Hein, il le conseillait pour la vérité. Il propageait cette révélation sans demander aux gens un retour d'un bénéfice sur un immatériel comme le font ceux qui ont des objectifs. Celui qui veut avoir être président, ou celui qui veut, tous ceux qui appellent à la révolution, ils ont dans leur intention le fait d'acquérir un bien matériel. Tandis que les prophètes, ils propagent cette révélation sans demander en contrepartie, yani sans demander salaire, barakallahu fik. Wa amma qawluhu ta'ala wa waritha Sulayman Daoud fa huwa mirathu al-'ilm wa an-nubuwwah. Il cite le verset où Sulayman, c'est qui était avant Sulayman ou Daoud? C'est qui est le fils de Sulayman? Wa waritha Sulayman ou Daoud. Donc Sulayman, il a pris l'héritage de quoi de Daoud? C'est l'héritage de la science. Donc, et Allah Azza wa Jalla dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui profite de cette révélation qui vient du prophète, de cette science qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui prend yani l'option où il est le plus chanceux dans cette dunya. C'est celui qui profite réellement de cette dunya. Le hadd al-wafir, yani toi quand tu vis, tu penses dans ta vie, tu dis je vais faire quoi avec ma vie. Il faut que j'en profite parce que le temps, il passe. Hier j'avais 10 ans, aujourd'hui j'ai 20 ans, ça avance, hein, mais ça ne s'arrête jamais. Donc il faudrait que je me dise, allez, je vais profiter de ma vie quoi, en faisant du sport, en ramassant de l'argent, en courant derrière les chahawats. Celui qui profite vraiment de cette vie, c'est celui qui profite de cette science qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette révélation, et qui la met en pratique. Tous ceux qui cherchent autre chose dans cette vie d'ici-bas, ils sont en train de gâcher la chance qu'ils ont de vivre, de cette chance que l'Azza wa Jalla leur a donnée de vivre, parce que la vie, c'est le mazra'a, la hayat dunya, c'est le mazra'a ta'al akhira. Ici, on... mazra'a, c'est... on cultive, on met le bedra, et on récolte l'afira. Et donc c'est la chance qu'on a. Si tu penses que tu seras éternellement au paradis, il n'y a que ce paradis éternel qui n'a de ce que tu peux penser, mais la aïn ra'at, ou la udun sami'at, ou la khatra ala qalbi bashar, ce que nul œil n'a vu, et ce que nul oreille n'a entendu, ce que tu peux imaginer comme jouissance, le paradis, il est au-dessus. Voilà, khatar ala qalbi bashar, même dans le domaine des pensées, ce que tu peux penser au mieux, d'un bonheur que tu peux aller avec ta pensée, le paradis, il est mieux. Pour ce monde-là, par rapport au petit monde dans lequel on est en train de vivre, les petites jouissances auxquelles on a accès, celui qui gâche le fait de profiter de l'éternel, il gâche vraiment sa chance. Tu imagines le fait que tu es en l'akhira, c'est-à-dire tu te dis aussi seulement j'ai passé des heures à faire ibadatillah. Si seulement j'avais dans ma dunya, j'ai pris les heures que j'ai perdues dans telle ou telle ou telle chose, je les ai pris dans le fait d'apprendre la science, de la propager, d'adorer Allah Azza wa Jal, parce que ça me permettrait d'être à la hauteur, comme le paradis, c'est des étages, ça me permettrait d'être à la hauteur de ceux que je vois de loin. Enfin, c'est une scène, il est dans ses étages, et il voit ceux qui sont mieux que lui au paradis, il les voit, yani, dans des étages loin de lui, il espère yani, avoir leur place. Yani, Rabbi, j'allais voir hier comme yani, min ahl al-jannah. Et donc, l'essence même de cette vie, c'est d'essayer de prendre part et d'être parmi ceux qui profitent de cet héritage qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'acquérir cette science et de la pratiquer et de vivre avec, de connaître le bonheur de vivre avec et espérer d'avoir le bonheur de l'au-delà. Ibn Qayyim là-dessus, il cite un petit peu le. Non. Cite un peu. Non. Ibn Qayyim, le Cheikh Al-Albani, en général, quand il citait les hadiths, il citait des phrases importantes, il surlignait. Ça, c'est une sunna qui a été oubliée. Nous, pour montrer l'importance de cette phrase, on souligne. Al-Hadith. Hein, c'est une sunna qui était oubliée, il surlignait les choses qui étaient importantes. C'est une remarque qu'a fait Cheikh Al-Albani Rahimahullah, parce que lui, il a étudié un peu les livres, ce qui nous est venu de notre muhadithine. Quand il voyait quelque chose d'important, il mettait une ligne au-dessus ou là-dessous. Il surlignait, c'est ça, pas souligner. Voilà, il surlignait. Il mettait. Et là-dessus, le Cheikh Al-Albani l'a fait, il a de la remarque en disant voilà, il faut se démarquer, il y en a de le pouvoir. Même dans le fait de souligner les choses importantes, il faut qu'on les souligne. Alim qui est parti, même dans ces détails-là, partenaires, les gens, ils sont tellement loin de la religion, ils viennent, ils le critiquent, ils disent mais bon, lui, il ne comprend pas le waqa. C'est des fois. Je m'emporte un petit peu dans mes cours, mais bon, il faut me comprendre des fois. Voilà que là, on fait quoi. Des fois, en voyant, on est obligé d'écouter nos frères. Des fois, c'est tellement flagrant. Et après, tu lui dis, t'as fait l'air. T'es petit, vois ta phrase. Respecte les savants. Suis le chemin. Il y a assez de massacres dans l'Umma. Il y a assez de mal, il y a assez de sang qui a coulé. À cause de vous, on a c'est le pays. Vous avez, c'est-à-dire en Algérie, ils ont tellement kuffar qu'ils nous ont poussés à vivre, même chez les vrais kuffar. Je dis, vous avez tellement kuffar tout le musulmane que là, vous a envoyé vivre là où il y a des vrais kuffar. Tellement, là, vous êtes tranquille. Tout ce mal dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire, c'était que des idées qui ont commencé à certains moments. Les gens, ils ne comprennent pas, mon frère, t'es trop dur, tu attaques trop. Il faut vivre ce que c'est, une fille là, quand elle vient. Il faut vivre ce que c'est, les gens, quand ils perdent la tête. Cette affaire qui était dans la science. Et quand il y a eu des élections et tout, ils viennent et te disent, oui, c'est une chance qu'on ait une doula islamique. Comme ça, tu lui dis, mais bon, subhanallah al-adim. Hier, tu demandais juste qu'il y ait une sunna que ça se propage, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse faire les halakas tranquilles, c'est tout. Aujourd'hui, tu veux passer à un état. Alors que tu sais très bien qu'on n'a pas la foi qu'il faut. Et on est au. Si vraiment on est à la hauteur, ben dis-leur qu'ils mettent une barbe. Ils vont fuir. Dis-leur, c'est-à-dire que là, quand ils prennent le. Non, ben tu leur dis, comme ça tu vas avoir la réponse. Si tu es fsabilillah, ben vas-y au fond. Non, et les nasadou, ils pensaient, etc. Et certains, c'est-à-dire le fitna quand elle vient, tu la connais, même certains qui ont l'ilm et l'aql, des fois, ils se perdent à essayer de trouver la solution. C'est le rôle des ulama. Alhamdoulilah qu'on écoutait dans ce temps-là ce que disait Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et quand ils sont venus, ils lui ont dit, il était parti, c'est bon, il a gagné. Il a dit, c'est fouqa'at savon, c'est-à-dire c'est des bulles de savon. C'est beau, c'est gros, mais ça va éclater. Et au moment où vraiment, au final, l'été au plus chaud, où beaucoup, ils ont dit, peut-être. Parce que quand ils vivent dans la réalité de ça, quand ils sentent que c'est tout beau, j'ai une seule. Ils disent oui, peut-être qu'il y a la solution comme ça. T'imagines, Voilà, qui est un tariq wahid. Yani, tariq, il est là, Allah Azza wa Jalla, il a fait que le changement, il vient par da'wa, par tarbiya, par le fait qu'on apprend la science, par le fait qu'on propage cette sunnah, et par le fait que cette nation, elle a une obligation de bien comprendre le din et de bien le montrer, de bien s'en imprégner par sa pratique, pour que Allah Azza wa Jalla ouvre les portes. Yani, la bénédiction, et ouvre les portes du fait d'avoir l'Ummah Islamiyya qu'on cherche et qu'on souhaite. القيم continue en citant le hadith قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم. Il dit الدنيا ملعونة, en français c'est elle est maudite, la dunya elle est maudite, maudite ce qu'elle contient, ملعون ما فيها, sauf le fait de faire ذكر الله عز وجل. Et ce qui suit le dhikr, mawalah, et le savant, et celui qui suit la science. Hein, ce qu'il y a de bien, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là-dessus, il nous dit tout ce qui est de, dans cette terre, il n'a pas de valeur, et ça suit. Le hadith où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Lokanat al-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'ouda, ma saqa kafiran minha sharbatama. » Si cette dunya, elle valait chez Allah azza wa jal, le poids de l'aile, de moustique, il n'aurait pas fait boire à un kafir un verre d'eau. C'est-à-dire que la valeur de Dunyadi, en réalité, c'est qu'est-ce que tu peux rassembler, tout ce que tu veux Dunyadi, le jour où tu meurs, tu ne prendras pas avec toi tout ce que tu as rassemblé. Qu'est-ce que tu prends avec toi? L'argent que tu rassembles, il part. Tous les biens matériels, yani, ils sont relatifs, c'est presque virtuel. Quand tu meurs, yani, tu profites quoi de Dunya? Tout ce qui est dedans, il n'y a pas fait de baraka, sauf ce qui est pour Allah Azza wa Jal. Ce qui reste, c'est le fait que tu as appris à la science qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jal, de faire les bonnes actions que tu trouveras le jour du jugement dernier. Et tout le reste, tu vas le maudire toi-même, yani, le jour du jugement dernier. Parce qu'il ne va pas, il va rien te rapporter. Et après, il cite que le jihad, il a deux sens. Mon Qayyim là-dessus, il cite, il dit, « وَإِنَّمَا جُعِلَ طَلَبُ الْعِلْمِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّ بِهِ قَوَامُ الْإِسْلَامِ كَمَا أَنَّ قَوَامَهُ بِالْجِهَادِ فَقَوَامُ الدِّينِ بِالْعِلْمِ وَالْجِهَادِ. » Il dit, le jihad, il a deux types. Le jihad bil hujjati wal bayan. Le jihad bil yadi wal lisan. Il y a le jihad de l'action avec la main et le sinan et les armes. Et il y a le jihad avec la science. Il dit, « وَهَذَا جِهَادُ الْخَصَى. » Le premier, il dit, c'est pour tout le monde. Mais le jihad avec la science, il n'y a que les ulamas qui le prennent en premier lieu. Et c'est lui qui donne, il y en a le plus de résultats. Jihad bil hujjati wal bayan, wa hada jihad ul khassa min atba'i rusul, ceux qui suivent les prophètes, wa huwa jihad ul a'imma, wa huwa afdal ul jihadayn li'idami manfa'atihi wa shiddati mu'natihi wa kathrati a'da'ihi. Ça, c'est le jihad des particuliers, c'est les savants qui protègent cette religion, et c'est à travers eux qu'Allah Azza wa Jal a protégé cette religion. C'est ce qu'il a dit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc il nous a assuré la continuité des savants qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du temps du prophète jusqu'à aujourd'hui. Hein, le prophète, il n'est plus, mais son héritage, il existe. C'est pas comme les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, il y a eu une discontinuité, il y a eu une perte de l'information initiale, de la révélation initiale, tandis que cette religion, Allah Azza wa Jal, il l'a protégée. Il l'a protégée avec quoi? C'est qu'en tout temps, il y a toujours les savants. Leur nombre, il est important, ou il est réduit. Il y a toujours les savants qui prennent, qui ont pris l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'héritage du prophète nous a toujours été, il y a toujours de la continuité qui assure le fait qu'Allah Azza wa Jal protège, a protégé cette religion de la perte qu'ont connu le Torah et l'Injil, les Juifs et les chrétiens. Et c'est celui-là le plus important. Ce que font aujourd'hui les ennemis de cette religion, ils essaient, à travers les médias, à travers les idées qu'ils donnent, d'essayer de donner toujours une fausse image à l'islam. Et c'est la vraie bataille. C'est une grande bataille. Pour certains, ils pensent que le jihad, c'est faire le rambou, etc. Et non. Tiens, c'est une question de... Le projet, il est plus important que ce que tu penses. Toi, tu es influencé par les films. Tu penses voler les choses tellement... C'est ton influence. En réalité, le combat avec la science, le combat de donner le bon exemple de cette religion, le combat de donner les bonnes preuves, les bons raisonnements, c'est plus important. Pourquoi aujourd'hui, il y a tout cet effort pour montrer l'image sanguinaire de celui qui porte la barbe, qui porte la sunna, et qu'on mélange le nom de Salafi avec le nom de Tekfiri. Alors que l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui se prend en être un pays salafiste, c'est le premier qui a subi yani, les dégâts causés par les Tekfirines, etc. Mais n'empêche que les médias nous montrent toujours que Salafi, c'est ça. Pourquoi? Pour être l'amalgame, il est voulu. Parce que le fait, ceux qui suivent, qui donnent la bonne image de cette religion, ceux qui prennent ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui suivent Yani Salaf Salah, c'est ceux qui suivent le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Hein? Et donc, pour essayer d'éloigner les gens de cela, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas assez d'arguments, le bonheur qui est proposé à l'Occident, ça il a fait faillite. C'est quoi la vie que propose Yani l'Occident? Il y a des gens, ils prennent des bars, qui meurent, etc., pour venir vers le blad, et après ils arrivent, ils trouvent des gens qui ne sont pas contents. Il trouve des gens qui se plaignent tous les jours. S'il fait beau, il manque la pluie. S'il y a la pluie, il manque le soleil. S'ils font des grèves, il veut aller travailler, il n'arrive pas. Et il y a des gens, ils lui bloquent la route, ils lui disent c'est ça, c'est la démocratie. Il ne comprend rien du tout. Il dit, je veux rentrer chez moi. Non. La route, elle est bloquée. Il y a les camions, ils ont fait la grève. Ils ne comprennent pas, Yannick. Mais c'est ça le bonheur que vous me proposez, Yannick. Moi, je suis venu, je pensais que c'était le paradis. Je pensais que Dénialil, l'Occident, j'ai fait tant d'efforts, j'ai laissé tomber mes pays, mon pays, j'ai laissé tomber mes parents, etc. Je suis venu, je pensais que là, machallah, j'allais être tranquille. Mais en fait, j'étais plus tranquille. C'est vrai qu'ici, je gagne bien plus d'argent, mais j'ai perdu la tranquillité que j'avais. Si les Nasiranis sont en train de revenir de loin, et là, aujourd'hui, il y a et ça, ils le savent. Et donc, ils savent très bien que s'il y a des gens qui vont bien présenter cette religion et montrer ces aspects qui sont des aspects très forts, ils risquent de prendre avec eux beaucoup de gens. Donc, il y a la vraie bataille, elle est là pour essayer de montrer que l'image des musulmans, du barbu, c'est l'image sanguinaire. Donc, celui qui ne sait pas, dès qu'il voit un barbu, il te dit terroriste. C'est tellement il est imprégné, et la force des médias, c'est fort. Il ne faut pas dire que ça n'influe pas. En 93, 94, moi j'étais en train de faire du commerce, je faisais la route, etc. Ils parlaient tellement de ces barbus, des fois je marchais, j'étais en Paris, je suis passé devant un miroir, je me suis regardé, j'ai sursauté. Je me suis dit un barbu, c'était moi. Tellement, yani, l'influence des médias, yani, c'est tellement, ils te disent attention ce barbu, attention, etc. Je pensais, c'est-à-dire que, en effet, il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas être influencé par les médias, par ces gens qui parlent, par les belles paroles à des politiciens qui te ramènent, etc. Ils sont naïfs. Si on n'a pas cette science, si on n'a pas cette révélation, on est faible. On peut être influencé par tout et n'importe quoi. On est déjà venu, c'est horrible de parler des choses qui sont décentes, de parler des... Tu viens dans un pays où j'ai fait une fois, je me suis juré, dit voilà, etc. Parmi ceux qui assistent le Jumu'ah, il vient, il me dit, oui, mais il y a des gens, les gens qui veulent se marier, des hommes qui veulent se marier, des hommes, et il a dit, ils ont un problème de gêne. Mais je lui dis, c'est ce que tu es en train de dire, subhanallah al-adim. Quel gêne? Allah Azza wa Jal, il a créé la femme pour l'homme. Enfin, pourquoi tu vas dans ce sens à te dire, subhanallah al-adim. Allah Azza wa Jal, il t'a fait le bien. Comment se fait-il? Dans la nation qui se dit qu'elle est à un niveau d'intelligence, à un niveau de raisonnement, et elle est soulevée, etc., elle accepte des choses comme ça, ou même nous, quand on vient, on commence à... Après tout, je souffre la faiblesse dans laquelle on vit, alors que c'est des choses qu'on refutait dans nos pays et qu'on ne pouvait même pas y penser. C'est une sainte dérive de parler de ça. Comment ça tu dis? T'es malade, t'as de... Mais là, les gens disent, oui, c'est bon. Tu peux l'accepter.